Éric Provost, le premier vice-président de l'agglo Saint-Nazaire de la Carène, est mon invité, élu à Saint-Nazaire et conseiller régional. On a parlé au cours de ces différentes émissions de Saint-Nazaire, l'engagement politique de la Carène. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier tout ce que vous faites pour le parc régional de Brière. Alors, et président du syndicat du bassin versant, du Boivet aussi, vous êtes le président du syndicat mixte. On a reçu à votre place Bertrand Plouvier, qui a aussi des responsabilités au parc de Brière et qui vous a rendu hommage. Il paraît que les choses se passent très bien entre vous. Voilà. C'est vrai que le parc de Brière appartient à tout le monde, Éric Provost. C'est Bertrand Plouvier qui l'a dit que depuis...
La commission syndicale de Grand Brière.
Louis XIV, c'est ça.
En fait, il y a sur ce grand espace de zone humide qui fait... alors le parc de Brière, c'est 80 000 hectares. À l'intérieur, vous avez à peu près 20 000 hectares de zone humide et... Au milieu de tout ça, vous avez un espace particulier qui fait 7 à 8 000 hectares, c'est le marais Indivi. Et c'est celui-ci dont parlait Bertrand Plouvier, qui effectivement est en indivision. Tous les habitants des 21 communes qui sont autour de ce marais sont propriétaires en indivision du marais.
Donc on peut aller pêcher, c'est ça, librement ou chasser ?
Alors librement non, parce qu'après justement la commission syndicale que Bertrand Plouvier préside régit les usages pour faire en sorte qu'on ne soit pas tous au même endroit à pêcher, à chasser. Voilà. Et donc c'est là que ça devient intéressant de faire en sorte de réguler tous ces usages et que chacun puisse profiter en fait de sa volonté de pêcher, de chasser ou de se promener tout simplement dans le marais Indivi. Mais donc le parc, c'est plus large, et donc avec d'autres fonctions, puisque nous, on a aussi un gros travail sur la question environnementale à mener, faire le suivi des espèces et des habitats de ces espèces, faire de la médiation culturelle, l'éducation à l'environnement, mais aussi accompagner les filières économiques pour qu'elles se développent, pour que les ressources locales soient valorisées. C'est le cas de l'agriculture, notamment l'élevage de marais. L'élevage de marais, c'est essentiel pour demain, pour que le marais conserve sa fonctionnalité. Et donc, c'est pas facile aujourd'hui d'être éleveur dans le marais parce que c'est compliqué comme type d'exploitation. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent prendre la place, prendre la suite. Et donc ça, pour nous, c'est une source d'inquiétude en tant que gestionnaire du parc parce que s'il n'y a plus d'élevage dans le marais, sur la tendance longue, il n'y a plus de marais, en fait. On ne sera pas en capacité d'entretenir et de valoriser cette ressource.
Alors, je vais commencer par le début. Cher Éric Provost, parce qu'on dit toujours que vous êtes président du syndicat mixte du parc régional de Brière. Qu'est-ce que c'est que le parc régional de Brière ? Parce que beaucoup de gens, même des habitants, l'année parle du parc régional. C'est constitué par qui ? C'est public ? Finalement, je vous pose cette question parce que je l'ai souvent entendu. À quoi ça sert ?
Oui. Alors, les parcs naturels régionaux, il y en a 58 aujourd'hui en France. Le nôtre, il a été créé en 1970, donc il n'est pas tout jeune. Il a fêté son cinquantenaire. Et donc, un parc naturel régional, en fait, c'est un label qui est délivré par l'État. Je fais simple, et donc qui considère que sur des zones à fort enjeu, notamment environnemental, il y a besoin d'organiser des plans de gestion et un accompagnement en fait de la gestion pour que justement on puisse à la fois préserver l'environnement, mais aussi préserver les usages et faire en sorte que des activités de valorisation des ressources locales se développent. Donc c'est le cas du parc de Brière. Et donc tous les 15 ans, on passe en fait un audit et on est ou pas renouvelé en tant que parc. Donc là, nous, ça va être dans 4-5 ans qu'on va devoir passer, je dirais, sous les fourches codines de l'État et d'un ensemble d'organismes pour s'assurer qu'effectivement, on a rempli nos missions et qu'on veut continuer de les remplir. Et donc, voilà, ça sert à ça, un parc, c'est faire en sorte que... Alors, c'est constitué, après, il y a une structure, c'est ce qu'on appelle le syndicat mixte, dans laquelle toutes les communautés locales, communes, EPCI sont représentées. Et puis la région est un gros financeur, ainsi que le département. Et donc, avec ces financements-là, plus l'État, on fait en sorte de déployer des plans de gestion sur le grand périmètre du parc.
C'est d'ailleurs un des seuls lieux dans notre région qui a du tourisme tout au long de l'année, le parc de Brière. C'est agréable de s'y balader, de faire une balade en vélo.
Oui, parce que toutes les saisons, sont à la fois différentes et magiques. On découvre des animaux, des végétations, des ambiances complètement, des paysages complètement différents d'une saison à l'autre. Et c'est ce qui en fait son charme.
Il est immense, ce parc de Brières. Nous, on voit surtout l'activité liée au tourisme, c'est-à-dire la restauration, les balades en chaland. Parc de Brières s'incarne quand on va... Ça commence presque à la sortie de Guérande, à Saint-André-des-Eaux, c'est ça ?
Absolument. Même Guérande est en partie dans le parc. Une partie du périmètre de la commune de Guérande est dans le parc.
Et on va jusqu'à la mare aux oiseaux.
Oui,
à Fédral.
C'est le cœur, là. C'est le cœur. La Brière profonde, on va dire. C'est là qu'elle se situe le siège du parc. Hein, et donc, on est à quelques mètres de la mare aux oiseaux. Et l'île de Fédrin, c'est effectivement l'île de Fédrin, le port de Rosé.
Il y a les petits restos.
Il
y a
une petite
crêperie à l'île de Fédrin, un petit resto au bord de l'eau, les petits canards.
Piquérinet, de l'autre côté. C'est vraiment Saint-André-des-Eaux avec le port de la Chaussée-Neuve. Non, il y a des endroits formidables. Hein. Mais on est. Et après, il faut rentrer dans le marais pour comprendre ce qui se passe, en fait. C'est tout l'intérêt des promenades en chaland. Parce que c'est là qu'on découvre cette magie de fonctionnement d'un marais, d'une zone humide. C'est incroyable.
Alors vous avez dit quand même, il y a des problématiques qui se posent, il y a le réchauffement climatique avec, est-ce que c'est la première fois qu'on a noté une telle sécheresse comme ce qu'on a connu en 2022 ? Comment réagir ça ? La préservation de l'eau, c'est un dossier que vous avez mis sur la table, et puis il y a aussi des métiers autour comme l'élevage.
Oui, parce que alors des sécheresses, des années de sécheresse, il y en a déjà eu. Là, ce qui nous préoccupe, c'est que on sent que ça revient de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Et l'année dernière, effectivement, était vraiment un très bon et mauvais exemple de la situation.
Très bon exemple pour les touristes et mauvais exemple pour ceux qui ont besoin de.
Voilà. Donc là, on a vécu vraiment ce qui peut se passer dans les années qui viennent, et donc avec les conséquences que ça a, bien sûr, sur la question de la biodiversité, des continuités écologiques. Hein, quand il y a plus d'eau qui se promène dans le marais, dans les canaux, toutes les espèces aquatiques sont en difficulté. Les végétations aussi souffrent énormément. Donc voilà. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois à gérer des actions de court terme, des actions de long terme. Là, on a fait en sorte cette année d'être très prudent sur la gestion de l'eau. On essaie de garder de l'eau au maximum. On fait comme si la sécheresse allait se reproduire au printemps et cet été, et on a une approche très prudentielle. On a fait des réserves, on a fait en sorte de renforcer, de reconstituer la nappe. Voilà. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai envie de dire qu'on est à la fois optimiste et vigilant sur le passage 2023. Et puis après, il faut préparer la suite, hein, faire en sorte que la sobriété dans la consommation de l'eau, ça soit une réalité. Et puis trouver des économies aussi, ou des utilisations très différentes. On en a beaucoup parlé, y compris au niveau national avec le plan du gouvernement. Réutiliser par exemple les eaux usées, ce qui se fait très peu en France, c'est effectivement une des solutions pour faire face à ces difficultés.
Comment se fait-il que dans nos toilettes, par exemple, pardonnez-moi de prendre cet exemple, Éric Pauvaux, vous tirez votre chasse d'eau, vous avez de l'eau propre qui coule, on pourrait trouver un chemin.
Parce que vous n'avez qu'un seul circuit, rien ne vous empêche
de mettre... Non, mais ce n'est pas une aberration ?
Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas besoin d'eau potable pour la chasse d'eau.
Voilà.
On est d'accord. Et donc, d'où cet intérêt, effectivement, de vraiment mieux réutiliser. Parce qu'en fait, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est la différence entre l'eau prélevée et l'eau consommée. Hein. L'eau prélevée...
Elle n'est pas potable.
Si, elle peut être potable, mais surtout quand elle est juste prélevée, c'est-à-dire qu'elle fait un passage et elle revient rapidement dans le milieu. Hein. L'eau consommée, c'est par exemple un bovin que vous nourrissez, que vous abreuvez. Le temps que l'eau qu'il consomme revienne sous la forme du beefsteak dans votre assiette, il y a un cycle très long. Par contre, quand vous refroidissez, par exemple, je sais pas, un circuit industriel, l'eau elle revient très vite au milieu. Hein, et donc, c'est le temps de retour qui est important, faire en sorte que cette eau revienne le plus vite possible. Et l'eau qui circule dans les usines d'épuration revient très vite au milieu. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de la réutiliser, parce qu'on réalimente aussi... Parce que nous, la question, c'est surtout comment est-ce qu'on fait en sorte de conserver de l'eau dans la nappe, la fameuse nappe de Cambon, qui est une de nos sources principales d'alimentation avec la Loire, et comment est-ce qu'on fait en sorte que les ruisseaux, les zones de source, tout ça continue d'être alimenté en permanence, même s'il y a des périodes où c'est plus difficile forcément en été, mais comment est-ce qu'on fait en sorte de maintenir tout ça avec... Le problème fondamental, c'est la modification du cycle de l'eau. Ce dont on s'aperçoit, c'est que là où on était habitué à avoir beaucoup d'eau en hiver, et puis forcément au printemps ça se calme et en été on a moins d'eau, on s'aperçoit qu'on a des moments où il y a peu d'eau en hiver, février, pas une goutte d'eau, C'est quand même assez incroyable. Et à l'inverse, ce n'était pas le cas il y a deux ans. Il y a deux ans, on est sorti de l'été. On avait pratiquement trop d'eau dans les canaux. Donc, on a une modification du cycle. Donc, c'est ça qu'il faut aussi qu'on prenne en compte.
Et s'habituer à être plus économe dans sa vie quotidienne avec l'eau, voilà.
La vie quotidienne, la vie industrielle.
Mais ça, il n'y a aucune éducation là-dessus. Vous allez dans les pays arabes, même dans les hôtels de luxe, en Égypte, en Jordanie, Syrie, dans toute cette zone-là, même dans les hôtels de luxe, les gens, il y a la petite étiquette sur le robinet, faites attention à l'eau. Et chaque citoyen sait que sa douche, on ne met pas 10 minutes pour.
Oui, mais c'est parce qu'on.
Et ils sont aussi propres que nous, ne vous inquiétez pas, en une minute.
C'est parce qu'on découvre ce sujet. En fait, on a toujours eu l'impression qu'on avait de l'eau et qu'on n'aurait pas de problème. On est en train de basculer dans autre chose. Et donc, effectivement, ça doit s'accompagner de politiques de mobilisation et de communication sur la consommation.
Pour l'agriculture, qu'attendez-vous? Quels sont vos projets? Vous dites qu'il y a des problèmes, notamment en termes d'élevage. Trouver des gens qui vont reprendre
cela
en main.
Oui, parce qu'on parle d'un principe simple, c'est qu'effectivement, la taille du marais, 20 000 hectares, c'est pas la main de l'homme qui va l'entretenir comme ça. Parce qu'un marais qui n'est pas entretenu, c'est un marais qui se referme. Donc, quand vous prolongez la tendance, c'est un marais qui redevient un bois, une zone de friche, mais il n'y a plus d'eau.
Hein. C'est un marais artificiel.
Alors, le marais, effectivement, il a toujours existé. Mm-hmm. Par contre, on l'a organisé. C'est-à-dire qu'on a mis des ouvrages et on l'a réorienté vers un marais d'eau douce. Il était avant un marais d'eau somate, puisqu'il y avait des connexions permanentes avec la mer, avec l'estuaire. Là, aujourd'hui, ce qu'on a organisé, c'est le fait qu'il soit en marais d'eau douce, hein, pour justement pouvoir élever du bétail. Et donc, ce bétail a un rôle primordial, parce qu'en étant sur les prairies, il favorise la biodiversité, c'est-à-dire qu'il permet d'éviter justement le refermement des prairies et il permet aussi aux plantes de se développer. Donc la présence du bovin ou des ovins, mais nous c'est plutôt des bovins, est essentielle. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est compliqué partout. Hein, mais a fortiori chez nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, pour la plupart, ils n'ont pas le fils qui reprend, ça n'existe plus. Hein. Il faut trouver un repreneur. Et les repreneurs, entre venir élever des bêtes dans le marais, les emmener en pâturage, en transhumance, parce qu'il y a une transhumance en fait dans le marais de Brière, et puis à côté, être sur une zone gérée d'exploitation beaucoup plus facile, le choix est vite fait. Donc nous, il faut qu'on arrive à mettre en avant, en évidence l'intérêt de l'élevage de marais.
Rendre la profession attractive.
Voilà, et c'est à ça qu'on travaille avec les équipes de la Carène, de Cap Atlantique, les équipes du parc. Je dirais que sur Cap-Atlantique, c'est moins compliqué parce que la situation est un peu plus favorable. On a moins de zones humides, on a une forte demande de population qui veut des produits en circuit court, à la ferme et autres.
Carène et Cap-Atlantique, non ?
C'est un peu plus compliqué, nous, sur le cœur du marais. Hein, et donc, c'est pour ça qu'on va intensifier sur le cœur du marais. Mais voilà, c'est pour nous un des gros enjeux de faire en sorte que, à la fois, l'agriculture bénéficie à l'environnement du marais, mais aussi que les populations, effectivement, trouve des produits en circuit court. Et là, il y a quand même c'est un avantage, c'est qu'on a quand même des populations locales et des populations touristiques qui sont de très gros consommateurs. Hein. Rajouter à ça la restauration collective, on a la capacité de soutenir cette agriculture.
Oui, mais peut-être que vous aurez moins de difficultés, Éric Provost. Maintenant, on dit que toutes les nouvelles générations ont envie de donner un sens à leur vie, ils veulent plus de métiers bullshit sur des tableurs Excel dans des tours.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, dans les candidats, entre guillemets, à l'installation, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les néo-ruraux, donc des gens qui ont envie de faire autre chose de leur métier et de leur vie. Sur le maraîchage, ça se passe bien. On arrive à installer des gens qui découvrent un peu la situation. C'est un peu plus compliqué quand même quand vous avez à gérer 20 ou 30 vaches. Et donc ça suppose plus d'accompagnement. Mais c'est pas impossible. Et justement, on essaie de coupler des activités de maraîchage et d'élevage pour que petit à petit, le néo-rural s'installe plus sereinement dans sa nouvelle activité.
On peut vivre, il y a un modèle économique.
Oui, il y a un modèle économique, absolument.
Il faut aussi que le consommateur accepte de payer au juste prix.
Il faut payer le juste prix au producteur. La contrepartie d'un élevage ou d'une action de maraîchage de proximité sans volonté d'avoir des hectares et des hectares d'exploitation, c'est qu'il faut accepter effectivement de payer ce prix-là.
Voilà, on a parlé du parc de Brière. Merci encore, Éric Provost. C'était passionnant. Je rappelle, Éric Provost, que vous êtes conseiller régional, premier vice-président de l'agglo de Saint-Nazaire, élu à Saint-Nazaire. Merci, Éric Provost.
Merci bien.